À quoi ressembleront les livres scolaires de demain ? Poser cette question, c'est poser celle de la numérisation des supports pédagogiques, donc, mais pas seulement, c'est aussi interroger la place de l'enseignant comme concepteur de son cours, co-concepteur des supports utilisés en classe et même des manuels à proprement parler. C'est aussi interroger la place de l'élève comme utilisateur de ses ressources et des multiples supports. Et celle peut-être de la place du livre, nous en débattons avec nos invités. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Et comme chaque semaine, rendez-vous avec l'actualité de l'éducation avec Marie-Caroline Missir, directrice de la rédaction de L'Étudiant. Bonjour Marie-Caroline.
Bonjour Louise.
Au programme cette semaine,
on va revenir sur les manifs de lycéens, la progressivité de la réforme du collège et la sélection à l'université.
Rue des Écoles, attachée de production, Laurence Genepin, Alexandra Malka à la réalisation et à la technique, exceptionnellement Vincent Ronet. Merci Vincent. Que vous écoutiez cette émission ce dimanche 27 avril ou en différé, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à notre podcast via franceculture.fr ou sur une appli sur votre téléphone portable par exemple. Et pour discuter, commenter, échanger avec nous sur cette émission, c'est à la page France Culture de Facebook ou sur Twitter, hashtag RDE.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Qu'est-ce qu'un manuel scolaire ? Il y a une définition légale. C'est un livre, un mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent. C'est un ensemble de fiches qui peuvent s'y substituer et qui sont régulièrement utilisées dans le cadre de l'enseignement. Ils sont conçus pour répondre à un programme préalablement défini et agréé par les ministres concernés. Ce sont aussi des outils parfois critiqués par les enseignants, des outils qui coûtent cher à l'éducation nationale. Ça se chiffre en millions. Alors on va réfléchir à l'avenir du manuel scolaire, un avenir dont on débat beaucoup. Et si on en débat cette semaine, c'est en particulier à cause d'un élément d'actualité. Je l'ai évoqué la semaine dernière. Jean-Marc Mériot, vous voyez où je veux en venir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du réseau Canopée. Canopée, c'est l'opérateur public de la pédagogie en France, on peut dire ça comme ça ?
Oui, c'est l'opérateur du ministère de l'Éducation nationale qui a amené à accompagner les politiques ministérielles sur un certain nombre de champs, dont celui de l'ingénierie pédagogique, des contenus. Voilà, c'est un champ assez large.
Et vous avez signé un accord avec Amazon ?
Disons qu'on est amené à avoir un contrat avec Amazon.
Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
À Lille, il y a ça un an à peu près, un peu plus d'un an, une équipe a essayé de travailler sur l'auto-édition et s'est appuyée sur le logiciel développé par Amazon. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a fait une expérimentation, ce qu'on fait des rapports d'usage par rapport à ce qui peut se passer autour de ces outils. Et à la suite de ça, c'est vrai qu'Amazon nous a dit « mais pourquoi ne pas être amené à pouvoir développer ça dans d'autres endroits ?» Alors c'est vrai que nous, dans notre relation au monde industriel, puisque nous sommes un opérateur public, on a cherché à rationaliser un peu cette relation-là, en tout cas à la formater. Et donc, on a développé ce qu'on appelle une offre aux industriels qui doit faire que nous ne sommes pas amenés à mobiliser des fonds publics pour pouvoir faire qu'on puisse développer ou en tout cas qu'on puisse être amené à pouvoir valoriser ce type de contenu. Et donc, dans ce cadre-là, on a été amené à proposer un contrat de prestation à Amazon.
Donc, ils vont vous aider à former des enseignants qui
le
souhaitent
ils sont amenés. En tout cas, on est amené à développer des séquences autour de la question de l'auto-édition qui s'appuiera sur le logiciel d'Amazon, mais qui sera amené surtout à pouvoir interroger les pratiques des enseignants autour de l'auto-édition.
Ouais, on va y revenir. Hein. Donc, l'auto-édition, fabriquer ses manuels soi-même.
Et c'est là, pas je vais vous demander que du manuel. Pas que pour, du manuel. Les expériences qu'on a été amenés à
quels sont les contours financiers et pour combien de temps Canopée s'est engagé avec Amazon ? En fin de compte, c'est quand ça s'appelle.
On est sur si aujourd'hui on arrive à 200 000 euros maximum pour tous les contrats qu'on a signés aujourd'hui, c'est un grand maximum. Hein, vous voyez, donc potentiellement ça peut toucher 60 profs. Donc voilà, le partenariat qu'on a avec.
Partenariat modeste, mais. Il y a une réaction assez vive du syndicat de l'édition. Sylvie Marsay, Je vous regarde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente des éditions Belin et vice-présidente du SNE, syndicat national de l'édition, qui a donc vivement réagi à la suite de l'annonce de ce partenariat.
Oui, alors bien sûr, c'est vrai qu'on entend que les chiffres sont modestes, mais au-delà des chiffres, il y a des symboles. Les symboles sont importants et ils sont surtout importants à un moment particulier où le président de la République et son gouvernement ont affiché assez fortement une politique numérique pour l'éducation. Politique dont un des grands volets est le soutien d'une filière éducative numérique française, précisément parce que nous avons, je crois, en France, toute la capacité de développer des offres vraiment de qualité et de nous positionner face à des acteurs, notamment américains, qui ont une puissance de feu et un appétit de rentrer dans le monde de l'éducation de façon mondiale. Et donc, cette annonce, portée, comme vous l'avez très bien dit, Jean-Marc Mériot, par l'opérateur public du ministère de l'Éducation nationale, qui est le bras armé, c'est pas bien de dire ça aujourd'hui, enfin le bras opératoire de la politique du ministère, ça nous interroge, d'autant plus quand il s'agit de promouvoir de l'auto-édition par les enseignants.
Alors, sachant qu'il y a déjà un contrat de l'Éducation nationale avec Microsoft, voilà, ça fait hurler un certain nombre d'enseignants. Vous appelez au patriotisme économique pour favoriser les éditeurs français, Sylvie Marsay ?
Moi, j'ai envie de me positionner sur le rapport entre l'auto-édition. Il y a deux sujets, en fait, qui sont assez distincts. Il y a un sujet qui est, quel est le rôle, la place du professeur ? Voilà, quelle est sa mission ? Et est-ce que le fait de produire ses propres supports pédagogiques fait partie d'une mission prioritaire pour l'enseignant ? Ça, c'est des vraies questions de la
place
de l'enseignant.
Et on va vraiment en parler.
Voilà. Et le deuxième sujet, c'est au moment où le gouvernement souhaite promouvoir une filière éducative industrielle, est-ce que c'est le moment, pour quelques dizaines de milliers d'euros, de dérouler un tapis rouge d'une marque Éducation nationale, parce que Canopé, c'est l'Éducation nationale. Donc voilà, le tapis rouge de la marque Éducation nationale à un acteur américain qui n'en demandait pas tant pour si peu cher, en tout cas.
Une question de Marie-Caroline Missière.
Une petite question technique. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres ou qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas d'appel d'offres ? Comment vous pouvez justifier ? Dans quel cadre juridique ça s'inscrit ?
Ça s'inscrit dans une offre qui est proposée à tout le monde. Donc nous, on est un prestataire. D'accord. Donc aujourd'hui, tout le monde est amené à pouvoir venir nous demander cette prestation-là. Et on n'a pas le droit de la refuser en tant qu'opérateur public. Parce qu'on est amené aujourd'hui à travailler. Et c'est comme ça que les premiers contrats qu'on a été amené à conclure, c'est avec Orange, c'est avec Hilltop, c'est avec UnoY, c'est avec un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs de la filière française. Et ça, c'est les premiers contrats qu'on a été amené à pouvoir...
C'est bien de le rappeler.
Qu'on a été amené à pouvoir développer. Après, je pense que la question qui est soulevée par Sylvie Marsay repose beaucoup sur la question aussi de l'auto-édition. C'est-à-dire que sur cette approche-là, qui je pense, moi, est aussi une vraie question.
Une approche innovante. Alors, l'auto-édition, l'édition collaborative aussi de livres scolaires. Parce que le livre scolaire évolue, manuels, livres, supports pédagogiques, parfois essentiellement numériques. Raphaël Taïeb, vous êtes cofondateur de lelivrescolaire.fr. Expliquez-nous ce que c'est, puisque vous pouvez le faire mieux que quiconque.
Oui, bien sûr. Alors, le nom que vous avez donné pour cette émission manuel scolaire, faites-le vous-même, ça aurait pu être notre cri de ralliement il y a 6 ans quand on a lancé...
Moi j'ai mis un point d'interrogation.
Point d'interrogation, on aurait mis un point d'exclamation peut-être d'eux-mêmes. C'était vraiment les fondamentaux qui ont poussé au début une petite communauté de mon cinquantaine d'enseignants réunis autour d'Émilie Blanchard avec qui j'ai créé ce projet et qui avait cette envie au début, qui prenait la forme d'un pari un peu fou, de créer ses propres manuels scolaires, d'assister énormément sur l'innovation, sur le numérique, sans délaisser pour autant le papier, parce qu'on pense pas que papier et numérique soient nécessairement amenés à s'opposer. On imprime tous nos manuels. Et ce pari qui était un peu fou au début réunit aujourd'hui une communauté de 1500 professeurs. Sur chacun des manuels scolaires que l'on crée, ils sont à peu près 200 à participer. Et aujourd'hui, ça a commencé par une centaine de collèges, 200 collèges. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 collèges en France sur les 7000 qui utilisent un ou plusieurs de nos manuels scolaires. Donc, on a amené finalement une nouvelle façon de voir à la fois le métier et le modèle économique.
Collaborative avec des manuels qui sont des objets qui évoluent. Mm-hmm. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. On en parle, on y revient juste après nos actualités, les actualités de Rue des Écoles avec Marie-Caroline Missire, évidemment. Dernier acte en date de la mobilisation contre la loi travail, c'était ce jeudi et ce vendredi aussi, avec une manifestation de lycéens et étudiants et des RICS et une mise en cause de la police, Marie-Caroline.
Et dès la matinée jeudi, certaines images diffusées sur les réseaux sociaux permettaient de prendre le pouls de la journée. Incendie volontaire aux abords de certains lycées parisiens, blocage plus ou moins spectaculaire. Et puis plus tard, dans l'après-midi, une vidéo de quelques secondes allume la mèche. On y voit un lycéen vigoureusement empoigné par trois policiers casqués, des insultes. Et puis, tandis que le jeune homme est maintenu par deux policiers, un troisième le frappe très violemment au ventre. Fin de la séquence.
Évidemment, beaucoup de réactions comme celles qu'on a pu entendre sur les antennes de Radio France.
Le policier l'a mis un hypercut.
Il a mis une patate dans son nez. Après, il a saigné beaucoup, beaucoup. Après, il a dit, tu vas assumer jusqu'au bout maintenant. Moi, je suis très choquée.
Ça, c'est une bavure policière, monsieur. Voilà. Il y a de la violence. Ils ont matraqué des élèves.
Je suis en train de filmer et il y en a un, il m'a dit, il m'a attrapé par le cou. Il me dit, ouais, donne-moi ton téléphone. Il a placé la matraque au niveau de mon plexus. L'autre, il me tâtait la cuisse avec un taser. Il a fouillé mon téléphone, il a supprimé un tas de photos, des vidéos, tout ça. Il collait son ventre vers moi, il me disait, ouais, tu sais pas comment j'ai envie de te boxer. Je dis, mais ça va pas. Après, il est venu, il m'a mis un coup dans mes couilles.
Ouverture d'une enquête de la police des polices, viralité exponentielle de cette vidéo sur les réseaux lycéens. Et puis un appel immédiat à un rassemblement jeudi en fin de journée pour dénoncer les violences policières par le syndicat lycéen FIDEL. Et puis à l'heure où nous vous parlons, deux commissariats ont été caillassés par des lycéens. En réponse, semble-t-il, à ces violences policières. Mais il faut rester évidemment très prudent à ce stade.
Nous voulions vous signaler une tribune, intéressante tribune des parents d'élèves du lycée Henri Bergson, premier lycée concerné, Marie-Caroline.
Je vous la lis. Nos enfants suivent des cours d'éducation civique et morale qui les préparent à leur future citoyenneté. Quelle crédibilité vont-ils désormais accorder aux institutions républicaines après avoir tous vu l'un de leurs camarades sans défense frappé par un policier sur la vidéo qui circule partout? Comment exiger d'eux confiance et respect de la police? Comment les convaincre que la République est un État de droit? Et ce tweet, toujours jeudi, cinglant, de Christiane Taubira.
Sommes-nous si désemparés que nous supportions mal notre jeunesse? Nos institutions sont républicaines, doivent le rester, le montrer. Et ce tweet a énormément circulé.
Cette couverture ultra-médiatique des violences policières lors des manifestations lycéennes a en effet passablement énervé le SNPDEN, principal syndicat de chefs d'établissement. Toujours sur Twitter, le syndicat s'insurge. Jamais d'enquête sur les violences physiques lors de blocages de lycées. Ça, c'est un tweet qui a été diffusé jeudi, référence aux attaques subies par certains conseillers d'éducation dans les lycées bloqués.
Il faut dire qu'au SNPDEN, on est très très en colère en ce moment et on s'emploie à le faire savoir.
Les proviseurs sont exaspérés, disent-ils, par les injonctions contradictoires, c'est toujours leur terme, et les leçons de morale du ministère. Ajoutez à cela des blocages de lycées, et voilà ce syndicat de cadres qui menace d'en tirer toutes les conséquences, attention, et déclenche même une alerte sociale. C'est une procédure assez rare qui a été utilisée pour la première fois en 2006, mais qui s'inscrit dans le contexte bien particulier, il faut le souligner, de négociations avec le ministère sur les perspectives de carrière. Après les lycéens, les chefs d'établissement ont donc ouvert cette semaine un second front social.
Comme on dit dans les manifs, le printemps sera chaud.
Cette ambiance très tendue n'a pourtant pas du tout perturbé le rythme des opérations de communication de la semaine du côté du ministère. Coup d'envoi de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, signature de partenariats et déplacements thématiques, enfin lancement d'une nouvelle plateforme d'accès gratuit à la presse dans les collèges et lycées.
Eh bien ça m'a tout de même intéressée, Marie-Caroline. La presse sérieuse, moi aussi je mets des guillemets, accessible gratuitement sur le Wi-Fi des établissements du second degré. C'était mardi, jour des attentats de Bruxelles, que le projet a été présenté à la presse. Comme j'ai croisé Louis Dreyfus, président du directoire du Monde à la présentation de ce projet, je suis tendu le micro de rue des écoles.
Si on prend l'actualité immédiate, donc aujourd'hui les événements de Bruxelles, et que vous comparez les rumeurs que vous pouvez trouver sur les différents sites d'information, et les informations que notre rédaction produit chaque minute avec des envoyés à Bruxelles, des enquêteurs, des spécialistes des affaires police-justice, vous pouvez voir directement l'intérêt que les jeunes générations aient accès à nos médias. Et donc aujourd'hui, le pari qu'on fait, c'est que cette information de qualité qui sera mise à disposition va devenir une habitude pour ces jeunes générations et que sortis des collèges et sortis des lycées, ils vont garder l'habitude de s'informer chez nous. traditionnellement le monde et le quotidien des enseignants. Je pense que d'abord les enseignants seront heureux que le monde participe à cette opération qui permet à ce que leurs étudiants lisent ce journal. Après, comme vous le savez, cette offre elle sera disponible que dans le Wi-Fi des établissements. Et nos abonnés, même enseignants, nous lisent beaucoup en dehors de leur temps de travail, donc chez eux, et cette offre ne leur permettra pas de nous lire gratuitement. Et puis je crois que leur intérêt est qu'elle s'applique d'abord à leurs élèves, et eux, nous, on a toujours misé sur la fidélité qu'ils ont à notre égard, et on pense qu'il n'y aura pas de réflexe de désabonnement, et qu'au contraire, ils seront plutôt les meilleurs ambassadeurs de notre marque, parce qu'ils sont déjà des lecteurs depuis assez longtemps.
Enfin, on verra si on lit davantage les journaux dans les salles des profs. En attendant, Le Monde prépare aussi son arrivée sur Snapchat, le réseau social préféré des ados. Marie-Caroline, vous souhaitiez revenir sur une information très controversée sur la réforme du collège.
Oui, vous vous en souvenez, j'évoquais il y a 2 semaines un scénario dans le cadre de la réforme du collège, des EPI limités. Les EPI, je vous rappelle ce que c'est les enseignements pratiques interdisciplinaires mis en place à la rentrée. Limité pourquoi ? Parce que dans ce fameux scénario, l'idée, ça serait de les limiter à certains niveaux du collège, 4e ou 3e par exemple, puis de les généraliser ultérieurement. La seule mention de ce scénario, qui est poussée par le SNES, principal syndicat d'enseignants du second degré, avec l'appui de Matignon, a beaucoup interpellé nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Éducation a même réagi en démentant l'information.
Et vous persistez et vous signez.
Et je signe, effectivement. Le scénario existe bel et bien, comme nous l'a notamment confirmé Frédéric Rollet du SNES, première intéressée, notamment, je dis bien. La ministre, quant à elle, ne souhaite pas donner un signal de recul, je vous l'avais dit, et Matignon est aujourd'hui échaudé par les manifestations lycéennes. Reste que le congrès du SNES se tient à partir de lundi, un moment où ce syndicat montre les muscles et joue à plein le rapport de force. Il n'hésitera pas, croyez-moi, à revenir à la charge.
Je suis impatiente d'aller sur Twitter pour regardez ce qui se dit sur le sujet. On termine avec un point météo. Vous nous parlez d'un baromètre.
C'est une enquête exclusive de l'étudiant et du pro sur le sujet chaud de l'enseignement supérieur, la sélection à l'université. Le 10 février dernier, vous vous en souvenez, le Conseil d'État a jugé illégal la sélection à l'entrée en master, qui est en fait pratiquée aujourd'hui par de nombreux établissements universitaires. Mais qu'en pensent les étudiants ? Nous les avons interrogés et sur les 2500 étudiants et lycéens qui ont répondu, eh bien ils sont 57% à se déclarer favorables à la sélection. 40% restent pourtant hostiles à toute forme de sélection à l'université, il faut le souligner. Mais c'est quand même une petite révolution, ce chiffre, quand on connaît la position de certains syndicats étudiants, comme l'UNEF, radicalement opposés à la sélection.
La sélection à l'université, ce sera le sujet de Rue des Écoles le 17 avril, Marie-Caroline. Vous restez un petit peu avec nous.
Absolument.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Nous parlons des manuels scolaires, supports pédagogiques utilisés en classe, hors de la classe, supports aux apprentissages, outils pour parfois aller plus loin. Des manuels qui sont proposés par les éditeurs scolaires, présentés ici par Sylvie Marsay, mais aussi par deux nouveaux acteurs. J'avais quand même une question à vous poser, Sylvie Marsay. Les professeurs disent qu'ils utilisent moins ou peu les manuels scolaires, qu'ils préfèrent parfois fabriquer leurs supports. On utilise beaucoup, beaucoup les photocopieuses dans les établissements. Est-ce que le manuel scolaire, les éditeurs n'ont pas pris du retard en évoluant pas assez et en ne proposant pas des supports suffisamment adaptés ? Sans parler du numérique, hein, pour le moment.
Sans parler ou en parlant, je ne sais pas. Les manuels scolaires sont toujours utilisés de façon diverse suivant les disciplines. Et ça, notre expérience nous prouve que dans certaines disciplines, ils sont extrêmement utilisés, dans d'autres un peu moins. Donc ça, c'est pas nouveau, ça fait longtemps. La question de la photocopie, elle est aussi très, très ancienne.
C'est pour ça que je disais que ça datait d'avant le numérique.
Pour fixer un petit peu les idées, notamment à l'école primaire, la France fait partie des pays qui investit le moins sur les manuels scolaires en primaire. Puisque aujourd'hui, les études qu'on a faites dans le cadre d'associations interprofessionnelles montrent qu'on dépense en moyenne 13,50 euros par élève et par an à l'école primaire, là où l'Allemagne dépense 31 euros, là où l'Espagne dépense 110 euros et la Finlande 81 euros par élève et par an. Donc on est très très bas. Parallèlement à ça, le budget dépensé pour la photocopie en France, il est pratiquement toujours au primaire de 12,30 euros par élève.
Donc on voit. Vous avez des chiffres précis.
On a des chiffres précis parce qu'ils remontent sur des enquêtes qui ont été faites effectivement il y a 2 ou 3 ans. Et donc cette culture française, très française, que l'enseignant est un bon enseignant s'il sait faire ses propres supports pédagogique, notamment au primaire, c'est quelque chose qui est ancien, qui est ancré. Ça fait plus de 30 ans.
On dit qu'il y a une explication historique aussi, qu'au départ, même sous la Troisième République, les professeurs aimaient proposer leurs propres ressources parce que les manuels étaient extrêmement directifs.
Alors, très certainement, dans l'histoire, les manuels ont été très directifs et ils l'ont été pour une seule raison, c'est qu'en fait, ils avaient pour objet, au moment où Jules Ferry a mis en place les manuels scolaires, on va dire la généralisation des manuels scolaires, c'est parce qu'il fallait en même temps former les enseignants. Alors aujourd'hui, le contexte est un peu différent. Nos enseignants sont des personnes éminemment formées. Avec des petits bémols, on voit que l'enseignement primaire, les enseignants viennent majoritairement de culture littéraire et que l'enseignement des sciences à l'école primaire est un problème. Parce que ça n'est pas la culture des enseignants. Donc le fait d'utiliser des manuels scolaires...
Ils ont vraiment besoin d'avantage
plus
manuels.
Besoin. Donc en fait, le rapport au manuel scolaire, c'est bien sûr pour nous, pourquoi fait-on des manuels scolaires ? Pour aider les enseignants, les élèves, les familles, vous l'avez très bien dit, à savoir ce qu'on attend, enfin à donner des outils à l'enseignant d'abord, à savoir ce que le programme attend de chacun des élèves dans ses progressions, et à permettre que chaque enfant réussisse. Et puis aux familles de suivre. Parce qu'en fait, c'est un objet transitionnel en fait entre l'école, les familles, les élèves.
Et même parfois un peu différent du cours. Chaque éditeur propose son manuel, qui est une lecture du programme qui a été faite par ses concepteurs, qui ne font pas partie de services dédiés du ministère. Vous demandez à des enseignants, par exemple, de les concevoir. C'est une forme de partenariat public-privé pour l'éducation nationale.
Alors, bien sûr, nous pensons que nous assumons un rôle de service public, absolument. Mais néanmoins, c'est pas un partenariat au sens administratif du terme. Et comme on l'a vu, vous disiez que les manuels scolaires n'étaient pas beaucoup utilisés, mais il y a quand même des nouveaux acteurs qui rentrent, ce qui veut bien dire que le manuel scolaire a aussi une longue vie devant lui. Enfin, nous le croyons profondément. Les éditeurs scolaires, depuis 2009, proposent des manuels scolaires très évolutifs, très ouverts, sous forme numérique. C'est d'ailleurs pour ça que certains acteurs sont venus aussi, parce que je pense qu'ils ont vu qu'existait de la part des éditeurs scolaires des offres numériques qui commençaient à être intéressantes. Pour les éditions Belin, nous avons créé toute une application de manuel numérique dans lequel l'enseignant peut venir rajouter ses propres données, remodifier l'ordre des séquences.
Mais il y a beaucoup de propositions. Il y a celle des éditeurs, il y a aussi des groupements de professeurs, par exemple pour les maths, Césamath, Weblettres pour les professeurs de français. Je suis beaucoup allée sur Weblettres pour trouver des cours, des manuels comme le livre scolaire. Mais vous, quand vous avez fondé le livre scolaire, Raphaël Taïeb, vous avez bien eu l'impression de répondre à une forme de manque?
Oui, alors en tout cas, on a répondu, je vous le disais, à une envie, une pulsion créatrice. Il y a un petit groupe de profs autour d'Emily, professeur d'histoire géo avec qui j'ai lancé ça, qui avait envie tout simplement de prendre les choses en main et puis de créer un manuel qui correspondait à leur pratique, à leur façon de voir.
Parce que ces enseignants ne trouvaient pas chez les éditeurs traditionnels de quoi fabriquer des ressources suffisamment proches de ce qu'ils cherchaient, de ce qu'ils voulaient faire, parce que c'était pas suffisamment plastique comme objet pour pouvoir le transformer à leur guise.
Bon, il y avait forcément un peu de ça, mais on va dire qu'on était en 2009, donc les manuels effectivement ont beaucoup évolué depuis, et beaucoup de manuels proposent aujourd'hui des services de personnalisation et d'enrichissement. À l'époque, c'était pas tout à fait le cas en 2009, mais il y avait cette envie de créer des ressources adaptées à la pratique en classe, adaptées à leur pratique, à eux. Mais imaginez-vous avec une bande de 10 ou 20 collègues en disant « Allez, on va se faire notre propre manuel, après tout, pourquoi pas, on fait nos propres cours, donc pourquoi pas aller plus loin et faire notre propre manuel ?» tout en mettant une dose de numérique et d'innovation là-dedans. Donc oui, c'est parti de là. Et aujourd'hui, je pense qu'en réunissant 1500 professeurs de toute la France, le modèle s'est imposé à sa façon, et on représente une vision un peu alternative de ce que peut être l'édition scolaire aujourd'hui.
On peut peut-être donner quelques chiffres. Hein. L'édition scolaire, avec les nouveaux programmes du collège, c'est des millions d'euros qui sont en jeu, Sylvie Marseille.
Oui, bien sûr, la réforme... Juste les chiffres. La réforme du programme, ce qui est annoncé, vous savez qu'au collège, c'est financé par l'État. Donc dans une ligne budgétaire de l'État, la ligne budgétaire annoncée, c'est de 150 millions pour renouveler à peu près la moitié des manuels qui seront nécessaires pour appliquer la nouvelle réforme.
Donc,
puisque
c'est
sur deux années qu'il est prévu de remplacer les manuels scolaires, donc avec une sélection de disciplines applicables en 2016, une autre pour 2017.
300 millions.
Au total, 300 millions sur 2 ans.
Amours ailleurs, on s'est quitté, comme on s'était rencontré. On avait presque oublié qu'on existait. Amours ailleurs, on a chanté, on a ri, on a dansé. Jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à pleurer. Sur ton visage, les étalages, des fruits mûrs, des soirs d'orage, j'ai tout mangé. Dans les étages, on tourne les pages de notre histoire de passage, j'ai tout brûlé. Au pied de l'amour, tu m'as laissé, au pied de l'amour, au pied de l'amour. Au pied de l'amour, je suis restée plantée, au pied de l'amour, au pied. Je n'ai pas froid, c'est pas mon genre. Les filles comme moi font des efforts pour oublier. Si c'est pas toi, j'y crois encore. Les hommes au fond, ça s'évapore comme la fumée. Au pied de l'amour, tu m'as laissé, au pied de l'amour, au pied de l'amour.
Nous parlons donc des manuels scolaires dans ce numéro de Rue des Écoles et de la capacité des professeurs à créer leurs ressources. Aujourd'hui, si Canopé, l'opérateur public de la pédagogie, j'aime bien le dire comme ça, c'est plus court, Jean-Marc Mériot, décide de créer, même si c'est modeste, et vous avez dit ça concerne 60 enseignants, des sortes de tutoriels, non, des ateliers pour les aider à créer leurs propres ressources, c'est qu'il y a aussi une demande du terrain.
Je pense qu'il y a une demande et sans se focaliser complète que sur le partenariat avec autour de Amazon.
Je n'y étais pas revenu.
Non, mais c'est important de montrer aussi toutes les autres choses qu'on est amené à pouvoir proposer. On a développé une plateforme qui s'appelle Via Edu, qui est le réseau professionnel des enseignants, qui est une plateforme pour pouvoir partager, échanger, co-créer des contenus sur lequel on est amené aussi à valoriser d'autres types de services. Donc Sylvie Marcet tout à l'heure parlait d'une des offres éditrices, et pour pas la nommer, qui est le Libre, en tout cas voilà, qui est amené aussi et sur lequel on est amené aussi à pouvoir valoriser un certain nombre de choses qui font que les enseignants, en tout cas nous, c'est à travers l'ensemble des études qu'on a pu mener autour de la plateforme Via Edu, sont vraiment amenés à vouloir savoir comment échanger, partager, co-créer et ensuite aussi diffuser ces contenus. Alors, à la différence sûrement, c'est que on s'est aperçu aussi qu'ils aiment bien que ça se fasse une relation de pair à pair. Donc, c'est aussi une dimension importante dans ce que constitue aujourd'hui le travail de l'enseignant. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi...
La meilleure personne pour me conseiller si je suis enseignante, c'est un enseignant.
C'est comment je suis amené à partager avec des gens qui ont la même approche professionnelle que moi et le livre scolaire, je pense, repose aussi beaucoup sur cette question de relation de pair à pair. C'est une dimension très structurante qui est liée aussi à notre histoire scolaire, en tout cas l'histoire de l'éducation et je pense que c'est quelque chose là aussi de très très structurant. Mais oui, les enseignants sont dans une puissance créative, mais ils l'ont toujours été et je pense que là-dessus c'est pas nouveau. Aujourd'hui, ils sont dans un monde complexe. D'accord ? Et ce n'est pas un monde univoque, il faut quand même bien en avoir conscience. Le monde numérique est un monde complexe parce que ça ouvre un certain nombre de perspectives, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et dans ce cadre-là, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. L'auto-édition peut être une tendance. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'en plus, ce n'était pas tant sur les questions de manuels scolaires qu'on était amené à pouvoir intervenir dans le cadre de ces approches autour de telle édition, c'était beaucoup plus sur des questions liées aux questions de l'éducation plus qu'à la question du manuel en tant que tel. Ce qu'on a observé, et c'est parti de l'initiative très locale, c'est pas du tout parti d'une initiative nationale, c'est-à-dire qu'à la base, c'est parti d'une initiative purement locale.
Marie-Caroline Missière.
Je voudrais juste donner un point de perspective dans ce débat, parce qu'il y a les manuels scolaires, donc avec le chantier de la réforme du collège et cet énorme chantier dont vous avez souligné l'impact économique tous. Et puis il y a aussi l'appel d'offres sur les ressources pédagogiques qui est en train de se jouer là en ce moment, toujours dans le cadre de la réforme du collège, où sont aussi en concurrence les éditeurs traditionnels, les start-up. Donc en ce moment, on est vraiment dans une séquence où vous vous livrez...
Pas l'opérateur. N'a pas intégré du tout.
Je vous mets de côté puisque vous êtes effectivement à l'intérieur. Mais
on n'intervient pas du tout dans
ce champ. Il y a une forme d'ubérisation de ce marché-là. Et les acteurs traditionnels qui n'étaient pas sur le numérique il y a encore quelques années, des acteurs neufs, en coulisses s'affrontent en fait pour obtenir ces marchés, pour faire leur place. Et puis il y a des actions de lobbying très fortes, hein, je le dis un peu ouvertement, mais il y a vraiment en ce moment se jouent des choses extrêmement importantes pour les prochaines années parce que les enjeux économiques et la survie des éditeurs traditionnels se posent.
Marseille, il en va de votre survie, enfin le fait d'arriver à assurer votre présence, survie d'un secteur économique qui est important dans l'édition.
Enfin, oui, vous portez bien ceci.
Mais nous ne nous sentons pas menacés, c'est-à-dire que, en fait, comme éditeurs scolaires, en tout cas, nos maisons ont beaucoup investi dans chaque fois qu'il y avait des ruptures technologiques, en fait, ou des outils technologiques qui arrivaient dans la société, qu'on essayait de mettre à disposition de l'éducation. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des enjeux très très forts, et peut-être pour pas y revenir tout en y revenant, l'inquiétude de gros opérateurs pour lesquels finalement des modèles économiques sont des modèles où le contenu n'a pas de valeur, mais où seule a de la valeur la donnée de ceux qui l'utilisent, sont des modèles qui peuvent être extrêmement problématiques pour une forme de souveraineté nationale d'un modèle d'éducation. Alors, je le dis avec un peu de sérénité, parce que c'est vrai qu'on perçoit que Amazon...
Pour qu'on soit clair, vous avez peur... Enfin, ce que vous affichez comme quelque chose d'effrayant, ce serait que les élèves, en utilisant des supports numériques, deviennent aussi des fournisseurs de données, les élèves ou les enseignants, d'ailleurs.
C'est pas en utilisant le numérique. Nous ne sommes pas du tout contre l'utilisation du numérique, on s'entend bien.
Non, mais avec
nous sommes
des
promoteurs du numérique comme apportant des vraies réponses dans l'éducation. Je reprendrai, comme Raphaël Taïeb l'a dit tout à l'heure, le fait que nous pensons que le livre continue à avoir une vraie place dans la pédagogie, parce que c'est pas le même effort intellectuel.
Revenons à la place du livre.
Nous, ce que nous disons, c'est qu'au travers du modèle économique qui est valorisé, peut se jouer des enjeux de monopole dans l'éducation qui sont majeurs. C'est-à-dire que dans la tendance forte qui est de considérer que tout doit être gratuit, comme le gratuit n'existe pas, tout le monde le sait, c'est que dans l'offre gratuite, vous valorisez par autre chose le fait de mettre du contenu gratuitement à disposition. Et à ce moment-là, on sait bien ce que c'est soit de la publicité. Est-ce que nous voulons que nos enfants, demain, soient abreuvés de publicité dans les supports pédagogiques que vont utiliser les professeurs et les élèves, parce que ça sera le moyen de financer le contenu de qualité ? Pour l'instant, on dit évidemment non. Est-ce que nous voulons que le contenu soit simplement... que les données d'utilisation soient la valeur qui va être captée par des opérateurs qui savent gérer ces données et pour ensuite pouvoir proposer à toute personne qui sera passée dans le système éducatif des offres diverses et variées. Donc ça, c'est un autre modèle économique, c'est-à-dire c'est pas de la publicité, mais c'est de l'utilisation de la donnée. Donc, et nous disons, moi je suis convaincue qu'il faut continuer à donner de la valeur au contenu intellectuel qui est fait. C'est-à-dire que le fait d'acheter, je pense que dans la presse on a la même question, vous parliez de la presse de qualité, du monde mis à disposition, nous pensons fondamentalement qu'il faut conserver, se battre pour que la valeur intellectuelle du contenu que nous créons continue à être perçue avec de la valeur. Voilà, c'est un enjeu pour moi de société de la connaissance, c'est un enjeu pour moi de valoriser des intellectuels, de valoriser ce travail intellectuel de la conception de choses de qualité.
Raphaël Taïeb.
Oui, alors, je crois que le numérique, après avoir fait irruption dans beaucoup de secteurs pendant 15 à 20 ans, est en train de faire une irruption massive depuis maintenant quelques années, déjà dans l'édition au sens large, mais aussi dans l'éducation prise dans son ensemble. Et comme à chaque fois, elle amène son lot de questions et de remises en question sur les modèles économiques, les types d'acteurs, les façons de procéder et les façons de vivre, effectivement, donc de monétiser. Aujourd'hui, il y a la question de ce que l'on veut, effectivement, et je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut accorder une valeur à la création intellectuelle, qu'elle soit faite de façon collaborative, qu'elle soit faite de façon individuelle, en auto-édition, en édition classique ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi la question du mouvement de fond contre lequel il est très difficile de ramer. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans notre secteur qui commence à être chamboulé par tous ces mouvements, mais dans d'autres secteurs qui l'ont déjà été il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, c'est que le numérique remet en question le modèle économique classique, notamment dans les industries culturelles, où il a longtemps été admis et on va dire de vigueur de vendre finalement le contenu qui est créé comme une commodité commerciale. Ce dont on se rend compte avec le numérique et le pouvoir de diffusion que donne le numérique sur les différents canaux digitaux, c'est que le contenu, les utilisateurs, les consommateurs de contenu ne le voient, enfin, voient toujours la nécessité qu'il y a à ce qu'il soit de qualité. Je pense que personne n'a envie d'avoir des manuels scolaires de mauvaise qualité, des musiciens qui font de la musique de mauvaise qualité ou des mauvais films au cinéma. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que dans tous ces métiers culturels, les gens ont de plus en plus de mal à payer, notamment sur le numérique. Et pourquoi ? Parce que tout le monde a très bien compris, inconsciemment, que le coût marginal de distribution d'un contenu à l'heure du numérique est proche de zéro. Et que donc, la réaction inconsciente ou consciente...
Ce ne sont pas les gens qui payent, ce sont les collectivités locales ou l'éducation nationale.
Mais les raisonnements sont les mêmes. Pourquoi est-ce que le ministère, aujourd'hui, propose un appel d'offres pour acquérir des ressources auxquelles tous les éditeurs répondent ? Mais quelle est la logique derrière ? La logique est la même, c'est-à-dire de penser que la problématique du contenu culturel, donc là on parle de contenu éducatif, n'est plus une problématique commerciale, c'est une problématique de financement. C'est-à-dire que l'appel d'offres du ministère, il consiste en quoi exactement ? Il consiste à faire appel à des experts, éditeurs, pour créer des contenus et ensuite les mettre à disposition gratuitement de tous les élèves et de tous les professeurs de France. Donc, on voit bien que la logique, qu'on parle de gens, qu'on parle de professeurs, de collèges, ouais, de collectivités ou du ministère, le raisonnement, et encore une fois, je pense qu'il est en grande partie inconscient, c'est celui-ci. C'est d'aller vers un monde où créer du contenu, ça se finance, ça ne se vend plus. Ce qu'on vend, c'est du service et de la technologie. Et c'est ce que l'on fait au livrescolaire.fr.
Et pourtant, c'est assez effrayant de vous écouter parce que on se dit que avec des collectivités locales qui prendront les décisions qui seront les leurs, eh bien, on pourrait avoir un paysage qui sera de plus en plus contrasté, avec parfois la tentation d'aller vers des solutions moins chères aussi.
Puis aussi vers la tentation de l'auto-édition, de la création par les pairs et de la création par la base. Et je pense que tout ça va dans le même sens. Le mouvement collaboratif, l'accès au plus grand nombre à l'éducation, notamment par les contenus, comme sur notre site internet www.livrescolaire.fr.
Encore faut-il que les enseignants suivent, parce que ça, c'est pour l'instant une partie du public enseignant, mais pas forcément tout le monde. Sylvie Marseille,
je voudrais réagir
très rapidement.
Oui, très rapidement, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit. Je modulerai beaucoup le propos. Moi, je fais pas une rupture entre contenu et service. Je pense que les deux sont mêlés. Et je pense qu'en tant qu'éditeur scolaire, nous, depuis 40 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des services. On apporte un service à l'enseignant pour qu'il fasse son cours. On apporte un service à l'enseignant pour qu'il prescrive des exercices à ses élèves. On apporte, par le modèle d'envoyer nos spécimens, on apporte le service aux enseignants d'avoir une masse de documents.
C'est le livre gratuit qu'on reçoit pour choisir son manuel.
C'est l'économie. Non pas du papier, c'est l'économie qui consiste à dire que c'est l'accès des élèves à un contenu qui va financer l'ensemble du service qui est proposé. Et ça, c'est depuis la loi Abi, et en fait, le modèle économique qui est derrière, qui a d'ailleurs au départ n'était pas celui-là. Il y avait un budget pour des outils pour les professeurs, et puis il y avait un budget pour les outils pour les élèves. Le budget pour les professeurs a été très très vite abandonné dès la première année de la mise en œuvre de la loi Abi, pour uniquement se concentrer sur un budget d'acquisition des livres pour les élèves. Alors évidemment, les éditeurs, qui sont des agents économiques, ils ont essayé d'apporter l'ensemble des services à l'intérieur du manuel scolaire, puisque c'était celui qui était financé. Donc moi, je pense que le débat, c'est pas celui de savoir si le contenu a de la valeur ou pas, c'est que le ministère de l'Éducation nationale et les représentations publiques, c'est-à-dire nos députés, nos sénateurs, tous ceux qui votent nos lois, considèrent que le service que nous, acteurs, que ce soit vous, le livre scolaire, que ce soit Belin, que ce soit d'autres acteurs, le service que nous apportons pour rendre efficient le système éducatif, ce service soit rémunéré, soit payé. Et pour moi, il s'agit plus de défendre le fait que par élève, il est normal qu'il y ait un coût par élève d'accès à du contenu, des services de qualité pour une réussite de chacun des élèves. Ça, c'est un modèle qu'il faut défendre. Le jour où on considère que ceci n'a plus de valeur, alors je crois qu'on se met dans les mains d'opérateurs pour lesquels c'est un autre modèle qui va jouer.
Donc, on conserve un investissement par tête pour conserver un circuit qui garantit une qualité de contenu.
et de service.
Moi, Jean-Marc Merlieu, je sais que vous voulez réagir, mais j'ai quand même envie de vous poser une question et j'espère que vous pourrez y répondre quand vous prendrez la parole, je vous le demande. L'opérateur Canopé, mais d'autres services numériques de l'éducation nationale et du SCOL fonctionnent de manière relativement complexe. On a essayé de dénombrer, avec une étudiante, Anna Klarsfeld, les plateformes destinées aux enseignants. Il y en a au moins 6 différentes. Pourquoi est-ce que ce paysage est si complexe ?
Parce qu'il n'a pas été pensé comme ça à la base. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a été amené à vouloir faire partie de cette aventure numérique. Et du coup, aujourd'hui, se pose la question d'une rationalisation de toutes ces offres-là. Je ne vous cache pas que ça fait partie des discussions au sein du ministère de l'Éducation.
Et d'une clarté dans un monde numérique qui est fluide,
que je serai interrogé dans les prochains jours par une mission de l'inspection générale autour de la question de l'édition publique. Et ça me semble absolument essentiel aujourd'hui de réfléchir à cette harmonisation et de voir comment nous sommes amenés à pouvoir porter. Sachant que nous, et ça depuis aussi un certain nombre d'années, nous ne sommes pas amenés à intervenir sur le manuel scolaire. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, nous n'intervenons pas sur le manuel scolaire. Nous sommes là, justement, avec la loi ABI et tout ça, plus sur le volant, comment on accompagne la pédagogie des enseignants et plus sur ces enjeux-là. Donc, il faut bien différencier tout ça. C'est pour ça que dans l'expérience même avec Amazon, en aucun cas, par rapport, nous sommes co-éditeurs des contenus. On n'est pas du tout dans ce positionnement-là. On n'a pas le droit d'être dans cette approche-là. On est là parce qu'on a eu des demandes des enseignants et je peux vous dire, puisqu'il y a eu une réponse d'un enseignant ce matin qui était très intéressant sur Medium en réponse au
Yann Houry, voilà, qui lui aussi parlait d'ubérisation, mais lui dit je suis professeur, en fait on a toujours été ubérisé, on fonctionne
donc,
de manière autonome,
donc, voilà,
indépendante.
Il a été amené à réagir entre autres sur un papier de Sophie Penn, qui d'ailleurs à proprement parler
universitaire spécialiste de
n'intervient pas
de la pédagogie
et n'intègre pas la dimension du payant dans toute sa réflexion. Et aujourd'hui c'est cet enjeu là de l'enseignant producteur, comme il est producteur pour les éditeurs, comme il est, il faut avoir conscience que voilà, il a à sa disposition un certain nombre d'outils qui viennent réinterroger aussi sa production de contenu, sa pratique, plein de choses.
Mais la question que je me pose très sincèrement, c'est un enseignant qui passe autant de temps à produire ses supports pédagogiques, ne perd-il pas un temps et une énergie précieuse qu'il pourrait utiliser avec ses élèves pour, par exemple, remédier à leurs difficultés, et elles sont très grandes, on le sait, en France, pour beaucoup trop d'élèves, à parler avec les parents, à organiser des projets pédagogiques, au lieu de fabriquer des cours et des supports, ce qui prend des heures et des heures, surtout en début de carrière. Raphaël Taïeb.
Oui, là, je peux peut-être apporter un élément de réponse, puisque, comme je vous disais, il y a à peu près 1500 professeurs de toute la France qui participent au contenu pédagogique que l'on crée au livrescolaire.fr. Et les témoignages que l'on recueille de ces professeurs de façon vraiment quasi quotidienne, ce sont des témoignages extrêmement positifs sur l'expérience qui est vécue. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas nous qui allons nous plaindre du fait que des initiatives publiques soient lancées en faveur du phénomène, on va dire, de l'enseignant auteur, qui est, comme on l'a rappelé, un phénomène qui date d'il y a très longtemps et que le numérique catalyse. Mais ce que je pense qu'il manque dans l'approche, c'est la dimension collaborative, justement. C'est-à-dire que le numérique, que change le numérique dans ce phénomène de l'enseignant auteur? D'abord, il permet à ce que ça touche beaucoup plus de monde, beaucoup plus de monde se lance dans le phénomène de création. Il permet de massifier la diffusion. Aujourd'hui, diffuser avec Internet, avec les nouveaux médias, ça devient tout de suite très impactant. Et troisième point, il renforce les logiques collaboratives parce que des outils sont disponibles aujourd'hui et nous avons nos outils qui permettent de faire fonctionner cette communauté. Et donc, les témoignages, est-ce que les enseignants perdent du temps? Je ne crois pas. Je crois que l'expérience, quand on crée, quand on est enseignant et qu'on se lance dans un processus de création, c'est une expérience extrêmement valorisante, extrêmement enrichissante, extrêmement gratifiante. Et je crois que vous savez, beaucoup de professeurs qui participent à ce genre de projet le font au-delà de leurs heures de cours, que ce soit dans les établissements ou chez eux, et le font vraiment par passion. Et je pense que c'est un des fondamentaux du métier d'enseignant.
Et pour les élèves, les parents, les gens qui ont besoin, par exemple, de s'y retrouver dans les apprentissages, dans le programme, puisqu'il y a encore des programmes, vers qui se tourner? Finalement, c'est presque une jungle. Il y a des manuels, il y a des plateformes, il y a des blogs concernant les programmes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des supports tamponnés éducation nationale? Ça va bien à l'inverse de l'histoire française. Mais finalement, ce serait plus simple, Sylvie Marseille.
Non, je pense que
vous aimeriez bien avoir autant... le tampon, l'imprimatur.
Non, pas du tout. Et je voulais juste rebondir parce qu'on a l'impression d'opposer deux mondes. Et en fait, je crois que c'est exactement le même monde dans lequel on est, Raphaël Italy. Les enseignants qui écrivent des manuels scolaires, c'est des enseignants comme les vôtres. Les 1000 enseignants que vous avez, nous en avons des milliers. Voilà, nous en avons des milliers qui sont extrêmement valorisés d'avoir contribué à un manuel scolaire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont au fond très connues, très classiques. Mais le vrai service que nous apportons, c'est pour tous ceux qui effectivement ne souhaitent pas rentrer là-dedans. Vous parlez de 1000 enseignants, mais en France, il y a 800 000 enseignants. Bon, voilà. Donc le métier que nous faisons, c'est un métier d'accompagner. Non pas ceux qui veulent se débrouiller tout seuls, ils l'ont toujours fait, ils vont toujours continuer à le faire. Mais notre métier, c'est d'accompagner quand il y a un changement de programme, pour en effet fournir des outils qui englobent l'ensemble du programme, ce que vous faites également. Le manuel scolaire, quel qu'il soit, sous quelque forme qu'il soit, ou une plateforme, ça n'est qu'un support. L'acte d'enseigner, c'est vraiment l'acte de s'assurer que ces élèves, ils ont bien compris, ils ont bien avancé, ils ont bien progressé. Donc c'est ce rapport à l'outil, au support, alors là, qui est dans la main de l'enseignant. Vous disiez, est-ce qu'on a un seul outil? Est-ce que ce ne serait pas merveilleux? Là, je crois qu'il y a beaucoup de situations de classe. Il y a beaucoup de contextes différents. Il y a beaucoup de façons. Il faut de l'offre variée, de qualité. C'est très important.
Jean-Marc Mario. Pour quand même la question autour de les profs, est-ce qu'ils passent pas trop de temps à chercher leurs cours? Je pense que ça fait complètement partie de la professionnalité de l'enseignant. Et c'est important. Ils construisent aussi toute leur profession par rapport à ça. Leur travail, c'est aussi d'organiser, de structurer et de pouvoir faire passer l'ensemble des contenus et des connaissances. Donc c'est le métier intrinsèque de l'enseignant. S'il est amené à devoir aller chercher, s'il est amené à pouvoir, en s'appuyant sur des manuels, en s'appuyant sur plein d'autres types de supports, je pense que c'est comme ça qu'il est amené aussi à renforcer son métier et à renforcer sa posture d'enseignant. Et pour moi, ça fait partie intégrante du métier d'enseignant.
Et aussi dans les échanges qu'il va avoir entre ses collègues. Vous parlez d'enrichissement, il y a un vrai enrichissement à échanger entre collègues et à créer ensemble.
Mais ça, je suis 100% d'accord. Pour avoir été enseignant moi-même, quand même, je pense que la réalité, et puis pour surtout toutes les tables rondes que nous faisons avec les enseignants, et nous en faisons des quantités énormes. On a deux discours. On a effectivement un discours qui est celui que vous évoquez, c'est-à-dire nous voulons créer nos propres outils, ça fait partie, ça constitue notre... Voilà. Ça, c'est une forme de discours. Puis on a un deuxième discours, c'est donnez-nous du prêt-à-porter, parce que nous en avons besoin, parce que notre énergie, elle doit être effectivement concentrée à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Donc en fait, il ne faut pas croire que le corps enseignant est aussi homogène que ça. Et je crois que notre vrai métier, c'est d'accompagner... Non mais c'est important, parce que notre métier, c'est d'accompagner aussi le plus grand nombre des enseignants qui n'ont pas forcément envie de s'investir là-dedans.
Et puisqu'on parlait de numérique, mais la question est posée à tous les trois... Est-ce que le fait d'avoir une collaboration dans la fabrication et aussi un échange constant avec les enseignants a permis de produire des manuels qui ne sont donc plus des objets fixes de meilleure qualité? Raphaël Taïeb.
Effectivement, rebondir sur ce qu'il vient de dire et que je partage en grande partie. Vous savez, sur notre site internet, on a à peu près 50 000 professeurs de collège qui sont inscrits. Et sur ces 50 000, je disais, il y en a 1500 qui contribuent à raison de 200 par bouquin, ce qui fait peut-être la petite différence quand même avec les façons de procéder habituelles. Donc 200 professeurs par manuel.
Dites-moi comment je contribue, mais je vous dirai
Et chacun d'eux, donc des contributeurs, que ce soit des 200 par manuel ou des 1500 au global, s'accorde pour dire qu'il y a toujours une valeur ajoutée à apporter d'un éditeur qui passe tout son temps, et plus que tout son temps, je crois, en ce moment, pour préparer cette réforme du collège.
Donc ça fait progresser la qualité des manuels.
Alors ça fait progresser la qualité des manuels. En tout cas, ça l'a fait évoluer. Et surtout, mon point, c'est de dire que, oui, il y a un phénomène de l'enseignant-auteur qui s'amplifie avec le numérique, mais il y a aussi le rôle de l'éditeur qui est toujours aussi important et qui évolue, puisque aujourd'hui, le rôle de l'éditeur, c'est toujours d'apporter une expertise dans la validation des contenus, l'éditorialisation, le graphisme, etc. Et il y a une nouvelle valeur ajoutée que l'éditeur doit apporter, c'est sur la technologie. Parce que le professeur pourra toujours créer
troisième, si vous me permettez.
Mais la technologie sera plus compliquée.
J'apporterai une troisième dimension, en tout cas qui chez nous est très importante. Comme vous savez, les connaissances et savoirs, ça évolue. Et nous, ce que nous, je pense, une des fonctions que nous apportons, c'est aussi d'aller chercher à l'université la science en train de se faire pour l'injecter dans le système éducatif. Car on oublie trop souvent que les enseignants, ils ont appris dans leur formation, ils sont curieux, ils continuent à avancer. Je pense à des exemples très précis. Le jour où la nouvelle classification du vivant est introduite dans les programmes scolaires, aucun enseignant de terrain, vraiment, ne la connaît. Donc notre rôle à nous aussi, c'est quand il y a comme ça des nouveautés scientifiques, c'est aussi de les apporter. Et c'est d'avoir le temps de le faire. Voilà. Et c'est pour ça que moi je suis très pour une complémentarité. Bien entendu, les enseignants y contribuent. Il participe
pour une mise à jour des savoirs en continu, Jean-Marc Perriot.
Moi, je pense qu'il y a une quatrième dimension, qui est la dimension...
Et la quatrième est très intéressante.
Non, la question du temps. C'est-à-dire que je pense que la question de la qualité, elle a toujours existé et elle existera toujours, qu'elle soit portée par les enseignants, par des consortiums d'enseignants, par tout ça, par les éditeurs. Cette question de la qualité, et je pense que là-dessus, il n'y a pas débat. Mais c'est comment répondre à des attentes beaucoup plus rapidement, parce que tout ça évolue aussi très très vite. Et donc la question de répondre à des attentes des enseignants grâce à ces nouveaux outils, à cette question d'adapter les contenus, les programmes, peut-être plus rapidement, parce qu'on est dans un monde qui avance rapidement, voilà, c'est peut-être une des dimensions aussi à intégrer aujourd'hui dans les processus de production, comment on est repensé les services, comment on est amené. Je pense que là-dessus, il y a une vraie, vraie réflexion. Et là où il y a une vraie difficulté qui vient se rajouter, c'est que le temps de la pédagogie est un temps long. Donc du coup, on se retrouve confronté dans un paradigme là qui est compliqué à gérer, c'est-à-dire on doit produire des contenus où on nous demande de les adapter de plus en plus à des attentes qui évoluent rapidement. Et de l'autre côté, on sait que la pédagogie, c'est un temps lent. Et donc là, on se retrouve un peu au milieu de tout ça. En tout cas, je pense que c'est une
savoir,
équation difficile.
La connaissance face au monde numérique, et on n'est pas les seuls à se poser la question dans l'éducation, je m'inclus. La place du livre papier, on l'a évoqué. Ce manuel, on va pas tous se donner nos âges, mais enfin moi j'avais des manuels papier. Je les ramenais à la maison, j'aimais bien les feuilleter. Des outils qui doivent aussi être adaptés aux élèves, on a parlé pratiquement que des enseignants. Des outils qui doivent être agréables aussi à manipuler. Rassurez-moi, on n'oublie pas les élèves avec ces changements. Raphaël Taïeb, Sylvie Marcet.
Non, je crois que le numérique, c'est une opportunité exceptionnelle d'aller toujours plus vers les élèves quand on crée des ressources, parce que le numérique, c'est beaucoup d'interactivité, c'est beaucoup d'éléments dont on sait que les élèves sont friands, et quand un élève est intéressé et curieux, forcément les résultats vont avec. Donc
manuel collaboratif avec des élèves,
on y a pensé pour tout vous dire, on est déjà un peu dedans, mais ce qui est important par rapport au début de votre question sur la complémentarité du papier, alors encore une fois, nous on est tous sauf des ayatollahs du numérique qui penseraient que le papier n'a aucun avenir. Au contraire, depuis le début, la complémentarité de notre projet Marie, le numérique et le papier. Et d'ailleurs, ce mois de mai, les professeurs notamment de français, d'histoire, géographie vont recevoir les exemplaires de nos nouveaux manuels. Et je pense que le livre scolaire papier a lui aussi de belles années devant lui, parce qu'il apporte une vraie valeur ajoutée.
Sylvie Marcet, le papier.
Le papier. Moi, je crois que derrière le papier, il y a le livre. Et le livre, c'est un objet culturel qui doit absolument être dans les mains des enfants. Et moi, je suis... Bien sûr, il faut stimuler les enfants, et toutes nos offres numériques sont faites pour les stimuler. Mais je crois que si on ne se développe que sur ce pied-là, on va faire des enfants totalement déséquilibrés pour l'avenir. Parce que tout ce qui est la force de concentration sur un livre, le fait d'englober visuellement, charnellement, ce qu'on va savoir dans un livre, c'est quelque chose qu'on perd en numérique. Le numérique, c'est un merveilleux outil, c'est un magnifique océan. Mais il faut aussi apprendre à nager et il faut apprendre aussi à se poser. Donc voilà, je crois qu'en effet, moi, ma vision, c'est que le manuel scolaire va probablement évoluer par la complémentarité de ce que peut apporter pédagogiquement et de façon cognitive le numérique par rapport à ce que pédagogiquement et cognitivement va apporter le papier, continuera à apporter le papier. Donc oui, je crois que le livre, il faut le laisser dans les mains des élèves, que le manuel... Il va coexister dans ces deux formes pendant encore assez longtemps, et qu'en tout cas, il va évoluer dans ces deux formes, mais j'ose espérer qu'on continuera à mettre des livres dans les mains des enfants.
Merci infiniment à tous les trois. On a encore beaucoup à se dire. Eh bien, on y reviendra. En attendant, je vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine à 17h. Et tout de suite, place à la justice, le monde selon Antoine Garapon. Excellente soirée sur France Culture.